Jean-Marie Vanesson pour RPL Radio. Nous recevons aujourd'hui Sylvain Castendutch. Bonjour Sylvain.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À la sortie de votre livre « Derrière le masque » paru aux éditions Parège Littérature, Sylvain Castendutch, ses 578 matchs, rien que ça, en Ligue 1, en première division, c'est une Coupe de la Ligue, deux Coupes de France, un titre de vice-champion, dont on se souvient encore tous à Metz, beaucoup d'apparitions aussi en équipe de France, et puis l'emblématique capitaine de ce grand FC Metz que nous aimions tant, que nous aimons toujours, mais c'est un peu différent aujourd'hui. Alors Sylvain, retour sur votre carrière qui vous voit arriver en sport-études à Robert Schumann à Metz, parce que vous êtes recalé chez vous dans une section minime, sélection minime d'Alsace. Ça commence mal, dites-moi.
Exactement, exactement. Je raconte dans ce livre, en effet, que je suis né au football, en fait, en Alsace-Bossu, dans un petit village, le FC McViller. C'était mon instituteur et donc mon premier éducateur qui m'a éveillé au football, même si j'avais ce rêve d'enfant aussi loin que je m'en souvienne. C'était vraiment un objectif de pouvoir jouer au foot tous les jours pendant toute ma vie. Donc, j'essayais de mettre ça en application dès le plus jeune âge. Et donc, en effet, j'étais déjà pas mal dans ces catégories de jeunes. J'avais été repéré. Et donc, je prétendais à être sélectionné dans l'équipe des minimes d'Alsace, oui, qui est pour la sélection à peu près des 13 ans, les meilleurs jeunes Alsaciens, voilà, de cette catégorie.
Ça marchait bien à l'époque.
Ça marchait bien. Et donc, en fait, au dernier stade, au dernier stage, en fait, en effet, le sélectionneur me dit, contrairement à mes deux copains du même club qui étaient beaucoup mieux bâtis physiquement, me dit, écoute, garçon, je vais pas te, je vais pas te retenir finalement parce que t'es trop petit, parce que ton potentiel physique, on peut pas le deviner pour le futur. Donc en fait, c'est vrai que ça a été un premier coup d'arrêt à 13 ans, ouais, alors que justement, je montais un peu en puissance parmi les meilleurs jeunes de cette génération. Et donc, les portes alsaciennes se sont fermées ce jour-là. Et donc, ça a été une première grosse claque, un premier gros contretemps. Et donc, du coup, mon papa, qui cherchait justement à me faire sortir de cette région enclavée de l'Alsace-Bossu, a trouvé cette possibilité de passer le concours de la section du lycée Robert Schumann, la section sport-études. Et donc, j'ai passé ce concours. C'était René Mourat, d'ailleurs, qui était l'entraîneur.
J'ai croisé il n'y a pas longtemps.
Voilà, René Mourat, d'ailleurs, dans le coin de Peltres. Qui y habite, je crois, d'ailleurs.
Et donc, oui, c'est ça.
Voilà. Et donc René me sélectionne. Je réussis le concours. Et donc, je rentre dans ce lycée Robert Schumann.
Oui. Le sport-études Robert Schumann, c'était quand même... Quand on passait par cette école-là, c'était quand même une école assez rigoureuse. Il fallait pour autant aussi travailler à l'école. Hein.
Oui, exactement.
Et ça vous réussissait bien. Vous étiez un bon élève.
C'était le principe, en fait. En effet, il fallait avoir un bon dossier scolaire, notamment pour pouvoir y rentrer. Donc ça, c'était le cas, puisque dans mon collège rural, j'avais de bons résultats. Et donc ça, c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Et puis, comme j'étais également donc doué au foot et que j'ai été aussi sélectionné sur cette dimension-là, en fait, oui, les deux conjugués, j'ai pu accéder à cette section sport-études, qui en effet est une très bonne école, parce qu'on continue ses études normalement, donc on fait seconde, première, terminale. Et en parallèle, on s'entraînait tous les jours, ce qui pour moi était aussi nouveau, puisque venant d'un village, foot de village, où on s'entraînait une fois par semaine avec le match du week-end, il a fallu doucement acquérir ce rythme, et ça a été une très bonne école. Ouais.
Alors, on pourrait faire une comparaison avec certains joueurs. Hein. On a eu des joueurs excellents en France qui n'étaient pas de taille extraordinaire. Je pense à celui qui vous bat en termes de présence, de nombre de matchs joués en Ligue 1, Alain Giresse. Oui. Je pense à Valbuena, je pense à Samir Nasri. C'est pas des monstres physiques et pourtant...
Oui, mais c'est un peu des exceptions malgré tout, parce que ces joueurs que vous citez, en fait, avaient un bagage technique exceptionnel. Donc ils compensaient en fait ce petit déficit de taille par une qualité technique, tactique et une emprise, un leader technique qui faisait qu'en effet, ils ont pu faire une très très belle carrière. Mais globalement, malgré tout, quand on n'est pas armé physiquement, c'est un vrai handicap dans ce parcours-là.
Vous avez écrit ce livre pour raconter votre parcours, donc qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas? C'est quelque chose qui était en vous depuis longtemps, en disant, bah, tiens, j'écrirai peut-être. On vous a aidé, on vous a poussé à le faire ou...
Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'en effet, j'avais cette envie depuis longtemps. Mais comme je vivais à 200 à l'heure entre Metz et Paris, puisque je travaillais à Paris tout en étant installé à Metz, j'ai pas eu le temps de me poser dès la fin de ma carrière. Ça s'est enchaîné. Et donc, je n'ai pas eu le temps. Et en 2023, quand j'ai quitté le syndicat des footballeurs qui est basé à Paris, en fait, je me suis posé à Metz et j'ai rencontré Pierre Théobald.
Journaliste,
avec qui le courant est vraiment très, très bien passé. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver quelqu'un qui...
Et puis vous connaissez bien aussi.
On se connaissait très bien. Voilà. Et il connaît très, très bien le club et le football, puisque d'ailleurs, il a commis l'autobiographie de Carlo Molinari. Donc, ouais. Il est très imprégné de l'histoire du club. Donc, le courant est très bien placé. Son style m'a plu immédiatement, puisque dans les premiers échanges qu'on a eus, j'ai bien senti que ça allait matcher. Et donc, voilà, ça, ça a été une deuxième raison. Et la troisième raison, c'était en effet de témoigner pour les supporters de longue date, notamment, de ces belles années 80 et 90 qui sont toutes ces années où le palmarès du FC Metz s'est construit.
Ce livre est notamment préfacé par Robert Pires, un grand parmi les grands, Robert.
Oui, Robert, on a passé 4 ans ensemble.
Vous l'avez vu débuter.
Je l'ai vu débuter. Et d'ailleurs, c'est vrai que son édito, enfin en tout cas sa préface est très forte. Elle m'a ému quand je l'ai lu, parce que c'est vrai que ses mots sont très forts. Et c'est un honneur, en fait, que Robert ait accepté de faire cette préface. On a gardé des liens, puisqu'on continue à se voir régulièrement. Et c'est vraiment un garçon exceptionnel dans tous les sens du terme, puisqu'il a un magnifique palmarès, mais en même temps, il reste très accessible, très simple.
Et il a réussi la troisième mi-temps aussi.
Exactement. C'est quelqu'un qui investit dans les médias, qui investit avec Arsenal, le club d'Arsenal en Angleterre. Il en est l'un des ambassadeurs éminents, donc il parcourt le monde aussi pour représenter Arsenal. Donc oui, en effet, Robert a bien réussi sa reconversion aussi.
L'époque était différente. C'est une question un peu subsidiaire par rapport à ce que j'ai pu travailler, mais c'est ce que vous me dites qui me fait réagir. Vous auriez aimé, vous, partir en Angleterre, à Arsenal, par exemple, ou peut-être un grand club espagnol ou italien ?
J'avais pas cette ambition, en fait, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais vraiment dans la fleur de l'âge et en possibilité de le faire, le marché était moins ouvert, en fait. Il y avait très, très peu de Français qui jouaient à l'étranger.
Ah, oui,
ce qui a changé, c'est l'arrêt Bosman en 95 qui a ouvert les frontières. Voilà. Donc, quand je suis parti de Metz en 90, par exemple, alors que je pouvais prétendre à certainement un bon club étranger, le marché n'était pas aussi ouvert, donc ça ne s'est pas présenté et je n'ai pas de regrets par rapport à ça, parce que je suis très très heureux des choix que j'ai faits et des clubs dans lesquels j'ai
combien
joué.
Combien, 5 clubs en tout?
En fait, donc il y a Metz, le Red Star, Saint-Étienne et Toulouse.
Et Toulouse.
4.
Oui, d'accord. Vous avez gardé des contacts avec ces clubs
En fait, directement aujourd'hui, non. Mais par contre, dès que je rencontre un ex-coéquipier ou ex-entraîneur, évidemment, on se raconte des histoires passées et qu'on a beaucoup de plaisir à se revoir.
Saint-Étienne, c'était quand même quelque chose.
Magnifique, magnifique.
Avant Paris et Marseille aujourd'hui, et peut-être Monaco, Lyon qui occupe le haut de... Saint-Étienne, c'était tout.
Bah, j'étais adolescent, et j'ai suivi l'épopée des Verts jusqu'en finale à Glasgow en 76, les poteaux carrés, exactement, cette finale mythique en fait. Donc Saint-Étienne, d'ailleurs, ça a été un peu un fil rouge dans ma carrière, puisque donc adolescent, j'étais fan de l'AS Saint-Étienne et des Verts. Ensuite, ma première présence sur le banc de touche en première division, c'était à Geoffroy Guichard avec Metz.
Oh là là.
Mon premier match titulaire.
Quel âge vous avez à ce moment-là?
Bah, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Et mon premier match titulaire, donc dans la foulée quelques mois après, c'est contre Saint-Étienne à Saint-Symphorien. Et ensuite, je signe à Saint-Étienne en 90. Donc, c'est vrai qu'il y avait déjà un lien avec la Saint-Étienne.
Les Verts ont compté pour vous.
Ah oui, énorme.
Voilà. Sans détour, vous déroulez votre parcours, sans haine pour autant. Mais vous racontez quand même quelques petits accros, si je peux me permettre ce terme-là. Il y a eu quand même, on parlait de Saint-Étienne à l'instant, un grand monsieur du football, Jean-Michel Larquet. Qui n'a pas été... Bon, bref, vous en parlez dans votre livre. Et puis, à un moment donné, vous êtes en équipe de France. Et Michel Platini, on pourrait penser qu'à la limite, il vous donne le brassard. Ben, que nenni.
Non, non, loin de là. C'est vrai que ce parcours, en fait, a été fait aussi de remise en question et d'échec. D'où le titre du livre, parce que derrière le masque, il faut aller chercher justement ces moments qui ne sont pas publics, où on doute, où on est remis en question, où les temps sont durs. Donc, c'est vrai que vous avez cité ces quelques exemples. C'est vrai que la fin de l'équipe de France ça a été compliqué. Alors, J'en souris puisque c'est vrai que j'ai cette anecdote où Michel Platini, habitant Nancy à l'époque quand il est sélectionné dans l'équipe de France, me ramène les deux ou trois matchs qu'on a vécu ensemble dans l'équipe de France, fait le crochet par Metz pour me ramener.
Ensemble.
On rentre ensemble en voiture.
Oui.
Et je me dis, au bout de deux ou trois sélections, notamment quand il me limoge en quelque sorte, je me dis certainement qu'il en avait marre de faire le crochet par Metz et qu'il voulait rentrer directement de Paris à Nancy, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il ne m'ait plus sélectionné. Non, mais plus sérieusement, en fait... comme à 13 ans, à ce moment-là, je pense avoir subi cette déficience physique, puisque c'est vrai que Michel Platini, pour les défenseurs centraux, poste que j'occupais, avait vraiment un prototype de joueur beaucoup plus armé physiquement, type Basile Boli, type Bernard Casoni, type Yvon Leroux, etc. Donc voilà, je pense que c'est encore à ce moment-là, à nouveau, ce petit déficit physique qui m'a desservi. Et concernant un des autres moments douloureux, ça a été en effet quand je suis parti de l'AS Saint-Etienne, contraint et forcé, parce que c'est vrai que les dirigeants avaient changé. André Laurent, le président qui m'avait recruté, a été débarqué brutalement par la famille Guichard et Jean-Michel Larquet. Et donc, comme j'étais capitaine et emblématique de ce président-là, Jean-Michel Larquet, je suis parti avec Claude Dubin. Mais de manière pas honnête, puisqu'il ne m'a jamais dit, par exemple, directement qu'il ne comptait plus sur moi. Il m'avait promis, d'ailleurs, quand il est arrivé au club, avant le début de saison, que je resterais capitaine, que je garderais des responsabilités, etc. Ouais. Et j'ai appris après qu'il avait déjà dans l'idée de recruter Laurent Blanc à ma place. Et il n'a pas été donc honnête sur ce coup-là. Donc ce n'est pas tant le fait de m'avoir écarté, c'est plus la manière,
l'incorrection
et la malhonnêteté qui m'ont blessé.
Vous qui avez été dans ce sport-là, c'est l'exemple type de ce qu'un footballeur peut subir.
Exactement.
Alors que ça lui tombe au-dessus, qu'il y comprend à la limite. Il faudra, certains mois, voire certaines années, pour avoir compris les méandres politico-local, etc.
Exactement.
Oui, joueur peut subir ça.
Un joueur subit régulièrement. D'ailleurs, il n'y a pas un parcours de joueur professionnel où, à un moment donné, on n'est pas. Où on ne subit pas, en effet, une décision qu'on ne maîtrise pas. Je sortais d'une très très belle saison à ce moment-là. J'étais capitaine de l'AS Saint-Etienne. Il me restait un an de contrat. Et on était sur un plan qui fonctionnait bien, on a fini, je crois, cette saison-là, septième et demi-finaliste de la Coupe de France. Et malgré ça, en effet, il y a des luttes politiques et de pouvoir qui ont fait que...
Et malgré tout, il faut se lever tous les matins.
Ah oui.
Bon, vous n'allez pas à la mine, mais il faut se lever tous les matins, enlever ça de sa tête et s'entraîner, courir derrière le ballon, s'entraîner correctement, ne pas se laisser atteindre psychologiquement.
Hein. Exactement, parce qu'en fait, mon éviction a quand même duré 2 mois. C'est-à-dire qu'entre le début de saison et le départ à Toulouse au mois de septembre, j'ai vécu 2 mois justement où j'étais en marge. C'était une première pour
moi, alors que
j'étais capitaine.
Ouais.
Et donc, c'est vrai que ça a été très très compliqué. Il a fallu vraiment se booster moralement et puis garder confiance en soi. Et c'est vrai qu'avec le recul, je suis assez fier parce que ces 2 mois, en fait, quand je rencontre aujourd'hui encore des ex-coéquipiers qui ont continué à Saint-Etienne après moi, m'ont dit, écoute Sylvain, franchement, chapeau sur cette période-là. Tu as vraiment assuré, assumé. Et j'ai pas fait de vagues, j'ai pas fait de déclaration publique comme j'aurais pu en faire au détriment des dirigeants qui arrivaient.
Ouais.
Non, je suis resté sport, je suis resté clean, respectueux.
Correct, voilà. Alors, est-ce que ça peut, je sais que vous êtes tous sauf un donneur de leçons, mais ce passage-là, est-ce que ça ne peut pas être un peu une idée de se dire d'un échec, je vais me battre et je vais prouver qu'on m'a rendu plus fort.
Bien sûr.
Ça, hein.
C'est le parcours, de toute façon, je vous dis, dès le plus jeune âge, en fait, on est dans un sport collectif, mais il y a des destins individuels, en fait. Et donc, il faut se faire sa place. C'est d'autant plus compliqué quand on est capitaine, quand on a justement le sens de l'intérêt général. Il faut garder d'oublier ses performances individuelles parce que malgré tout, on joue tous les week-ends sa place.
Bah oui.
On a beau être capitaine, on a beau avoir un statut. À un moment donné, quand vous n'êtes pas bon, 2 ou 3 matchs, vous avez beau avoir ce statut-là, l'entraîneur vous remet en question et vous pouvez perdre votre place. Donc il y a cette ambiguïté, mais cette double responsabilité qui est d'être bon individuellement et puis d'avoir cette responsabilité collective quand on est capitaine.
Lorsque vous étiez encore en activité, c'est-à-dire footballeur professionnel, est-ce que vous aviez déjà une idée de ce que vous feriez après ? Parce que beaucoup disent que là, il y a ce qu'on appelle une petite mort et qu'on se retrouve un peu perdu, on se lève plus, on ne va plus à l'entraînement. C'est arrivé à d'autres, hein ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, ça a été une préoccupation constante, en fait. Là encore, je ne le montrais pas. C'était vraiment derrière le masque, en fait. C'est vrai que je donnais le sentiment d'une forme de sérénité, de facilité, d'apaisement, etc. Mais en fait, il y avait un bouillonnement intérieur, à la fois parce que j'avais conscience que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain.
Une blessure
Une blessure, une grosse remise en question, un manque de confiance des dirigeants ou d'un entraîneur, et donc ça peut s'arrêter. Donc ça, j'avais cette crainte-là qui m'habitait, donc qui ne l'emportait pas sur la passion, sur la flamme et sur le rêve, mais en tout cas, c'était ça. Et puis, il y avait cette préoccupation, en effet, de l'après, parce que j'avais bien conscience que la deuxième vie serait beaucoup plus longue que ma carrière de footballeur professionnel. Ouais. Donc, j'avais cette préoccupation-là depuis le début, et plus je me rapprochais de la fin, donc j'ai eu de la chance, j'ai arrêté à 38 ans pratiquement, donc c'est quelque chose de...
Oui, c'est une belle carrière.
Qui se voit rarement, donc j'ai quand même eu le temps de m'y préparer, et donc il y a eu ce double challenge dès que j'ai arrêté ma carrière de footballeur, avec donc ce rôle que m'a confié Jean-Marie Rouche à la ville de Metz, d'adjoint chargé des sports et de la jeunesse. Et j'avais entrepris déjà à l'UNFP, donc qui est l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels, le syndicat des joueurs,
oui.
Voilà, dont Philippe Pierre en était le président. Donc il m'avait dit, écoute Sylvain, quand tu arrêtes ta carrière, j'aimerais bien que tu me rejoignes pour gérer le syndicat des footballeurs. Donc j'ai été rassuré sur cette dimension-là très vite.
D'accord.
Et c'est vrai que ça a été un luxe, parce que pour beaucoup d'anciens coéquipiers, ça a été un vrai souci. Et il y en a malheureusement quelques-uns qui n'ont jamais trouvé la solution.
Oui, et puis à l'époque, ce n'était pas les salaires d'aujourd'hui non plus.
Non.
Donc celui qui n'avait pas été précautionneux pour son avenir, ça pouvait craindre un peu.
Tout à fait.
Vous en parliez un instant, vous avez tenté, vous avez été adjoint au sport. C'est un passage qui vous a plu ? Quel souvenir vous en avez ?
Très très bon souvenir, d'ailleurs c'est une nature, c'est vrai que je n'ai pas de regrets en fait, même pour des moments où je pourrais en avoir, on pourrait toujours se dire tiens j'ai que 9 sélections, il aurait pu y en avoir 20 ou 30 ou 40, ou alors tu aurais peut-être pu rester dans ce club-là un peu plus longtemps, j'ai pas de regrets globalement, donc c'est vrai que cette proposition en fait de reconversion qui m'a rassuré en fait, fait que Ça a été un passage facile, en fait. C'est-à-dire je suis passé très facilement de ma carrière de sportif de haut niveau à cette deuxième vie qu'il a fallu conduire.
Oui. Parce que vous sortiez aussi de ce que l'on pourrait appeler l'univers d'un footballeur professionnel qui est extrêmement réglé. Le matin, l'entraînement, il n'y a pas beaucoup, parce que des fois je vois des gens qui insultent des joueurs. Il n'y a aucun joueur qui est sur une feuille de match aujourd'hui qui n'est pas un athlète de haut niveau.
Non.
Vous êtes bien d'accord avec moi ?
Bien sûr.
Alors on peut les traiter de chèvres et tout, ce qui est, je trouve, un peu lamentable. Ce sont des personnes, vous, à l'époque, vous étiez très enfermé dans un circuit.
Oui, en tout cas un mode de vie, une hygiène, évidemment. Moi, j'ai surjoué ce côté-là, contrairement à des coéquipiers qui se dispersaient un petit peu plus.
C'est un peu la fête, mais vous pas.
Mais ça n'empêche pas, mais moi, en effet, je considérais que si je me dispersais en faisant notamment la fête ou en sortant même un petit peu davantage, j'allais perdre de l'énergie, de la concentration et j'allais être moins performant, en fait. Donc, c'était en moi. D'autres coéquipiers n'ont pas été comme ça. Ça ne les a pas empêchés de faire...
Il y en a qui faisaient la fête et qui jouaient bien.
Qui jouaient très très bien, qui ont fait de très belles carrières. Après, la longévité est quand même attachée à cette rigueur et à cette hygiène de vie. Je pense que si j'ai joué jusqu'à 38 ans, si j'ai été très peu blessé, en fait, c'est quand même parce que j'ai mis ces ingrédients. D'autant plus que je disposais de pas beaucoup de muscles, en fait, et qu'il fallait les optimiser pour que justement je puisse être au niveau qui était nécessaire.
Alors, il y a un fait qui est remarquable chez vous. Vous le disiez à l'instant, vous avez été très très peu blessé. Aujourd'hui, il n'y a pas un footballeur qui n'a pas un passage à vide et ou des blessures musculaires qu'il faut soigner 3 semaines, 1 mois. Vous, il n'y a pas eu tout ça. Alors, il y a ça qui est remarquable chez vous. Et puis, vous n'avez jamais eu de carton rouge.
Oui.
Jamais.
Alors, sur les blessures, c'est vrai qu'à l'époque, même s'il y avait des blessures, aujourd'hui, les exigences sont beaucoup plus importantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les joueurs se blessent davantage, mais c'est aussi parce que les exigences sont beaucoup beaucoup plus forte. Les entraînements sont beaucoup plus intenses, oui. Les matchs sont plus intenses, la dimension physique prend vraiment une très très grande importance. Donc c'était différent à mon époque. Moi j'avais un poste en plus, le libéro, qui me permettait de m'économiser parfois, d'être
pas au contact, pas numéro 4. Quoi,
voilà, c'est ça. Je pouvais me préserver un petit peu, mais il y avait malgré tout en effet cette hygiène de vie. Et puis sur les cartons rouges, c'est lié d'ailleurs, parce que c'est vrai comme j'avais envie de respecter et de ne pas blesser l'adversaire. Mmh. En fait, le résultat, c'est que je n'ai jamais eu ce carton rouge et c'est ma plus grande fierté, au-delà des victoires en Coupe de France. Ouais. C'est vraiment ce dont je suis le plus fier aujourd'hui.
Alors, il y a les cartons rouges parce qu'on donne un coup, un mauvais coup ou un très mauvais coup. Ouais. Puis, il y a les cartons rouges aussi pour comportement sur le terrain.
Pour contestation.
Quand on voit aujourd'hui comment les joueurs se jettent sur l'arbitre, contestent, il n'y a qu'à regarder la CAN en ce moment, c'est assez incroyable. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Vous, à ce niveau-là, vous aviez le capitaine déjà, ouais. Ouais, vous aviez le recul. Ouais.
Bah, j'avais bon rapport avec les arbitres globalement, parce qu'ils sentaient que j'étais là pour les aider.
Ah oui, voilà.
Contrairement à beaucoup d'autres joueurs sur le terrain. Mais c'est pas simple. Parce qu'en fait, quand vous avez ce sentiment d'injustice, il faut vraiment aller chercher bien au fond de soi pour garder le contrôle. Donc j'y suis toujours parvenu. Mais après, je perdais beaucoup d'énergie en match avec ce brassard de capitaine pour essayer justement de tempérer, de faire le lien entre les arbitres et puis mes coéquipiers qui, de temps en temps, perdaient le contrôle.
Je pense à Mérieux qui prend un carton jaune qui va lui empêcher de jouer le dernier match.
Oui, oui.
Et s'il n'avait pas eu ce carton parce qu'il avait râlé,
exactement.
On n'aurait pas été vice-champion, mais probablement champion.
Oui, ça peut être une des explications. Ouais. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à tempérer et à éviter à mes coéquipiers de trop s'énerver.
Quel joueur, Frédéric Mérieux, hein. Quel joueur.
Oui, quel joueur. D'ailleurs, on se voit encore régulièrement. Et pareil, comme Robert Pires, c'est un homme exceptionnel, en fait.
C'était une de mes questions également. Est-ce que vous avez gardé contact avec vos potes? Est-ce que vous faites encore des petits matchs de bienfaisance ou des choses comme ça? Le ballon ne vous a pas quitté complètement?
Enfin, moi, je ne joue plus.
Non.
En tout cas, j'accompagne l'équipe des anciens. Parce qu'on a une association, en fait, des anciens du FCMS, qui est un peu en marge du club, mais en tout cas, qui vit avec le club, qui a le maillot Grenat.
Et qui fonctionne bien.
Et qui fonctionne très bien.
Avec des victoires, avec pas mal de buts.
Il y a un championnat, carrément. Il y a une équipe vétéran du FCMS. Oui. Donc, c'est un peu deux choses différentes, mais qui sont liées, parce que c'est à peu près les mêmes joueurs qui, de temps en temps, jouent avec les anciens et régulièrement avec les vétérans en championnat.
Oui.
Donc, c'est vrai que le FCMS est bien représenté par les anciens. Et puis, on se voit à travers cette association avec un déjeuner pratiquement une fois par mois.
Ah oui.
Donc, on se voit très régulièrement. Et donc, tout le monde ne vient pas toujours, mais en tout cas, on a vocation à se revoir.
Un petit mot sur un grand monsieur que j'ai eu la chance d'interviewer à la sortie de son livre aussi, Carlo Molinari. Oui. Il a compté pour tous les joueurs du FCMS. Il est encore présent aujourd'hui. Oui. Il accompagne le président Serin dans le vestiaire.
Incroyable.
Enfin, c'est un personnage hors norme.
Hors norme.
Monsieur. Le grand Carlo.
Monsieur Carlo Molinari, on a une longue histoire, il m'a fait confiance très tôt, en fait, et c'est vrai que ça n'a pas de prix, ça, parce qu'on l'a vu dans le parcours, on dépend, en fait, parfois de décisions et de confiance ou pas des dirigeants. Et donc là, avec Carlo Molinari, j'ai été bien servi, puisqu'on n'avait même pas besoin de beaucoup se parler, on se comprenait, on avait la même philosophie. D'ailleurs, la base, c'était on se comporte bien, d'abord, on donne le maximum, et après, on voit si on peut gagner. C'était une philosophie, moi, qui m'allait bien, puisque ça correspondait à ce que je voulais faire. D'ailleurs, Joël Muller, donc, qui a été aussi l'entraîneur emblématique et grand personnage.
Un grand monsieur, oui.
Voilà, on faisait ce trio, en fait, entre le président Molinari, l'entraîneur Joël Muller et moi en tant que capitaine. C'est vrai qu'on avait cette même philosophie, ce qui faisait que tout l'écosystème autour, et les joueurs en particulier, étaient imprégnés de ça et savaient, connaissaient le cadre, savaient jusqu'où ils pouvaient aller et ne pas aller.
Vous allez encore régulièrement au match ?
Oui.
Ouais.
Oui, oui.
Vous en loupez aucun ?
Pratiquement, parce que j'habite Metz et que j'ai le temps. Donc, et puis que je suis invité dans de bonnes conditions. Merci Bernard Serin.
Je suis presque peiné de vous poser cette question et j'attends pas de confidence hors norme.
Je vais être sincère, dites-moi.
Le visage du FCMS en ce moment.
Je vous arrête tout de suite, Jean-Marie. Moi, je suis naturellement, là aussi, plutôt à la fois constructif, tolérant irrespectueux. Et je trouve que le traitement qui est infligé à Bernard Serin aujourd'hui en tant que président est injuste.
Je suis parfaitement d'accord.
Est injuste complètement. Il y a une ingratitude et il y a une injustice par rapport à son engagement personnel, à la fois dans son fonctionnement, mais surtout financièrement, parce qu'il se met en danger personnellement pour justement assurer la pérennité du club, par passion. Et donc, je trouve que de demander, par exemple, sa démission, comme ça a été le cas ce week-end, c'est pas normal, parce que le supporter, en effet, il peut être en colère, il peut ressentir, encore une fois, un manque d'engagement.
Manque d'envie, il n'y avait rien.
Mais en tout cas, aller jusqu'à demander la démission du président, franchement, c'est pas normal, d'autant plus que quel va être le plan B ? Parce que le supporter, en demandant la démission de Bernard Serin, imaginons que le président passe à l'acte, il va y avoir quoi derrière ? Aujourd'hui, les finances sont tellement prépondérantes, le montant est tellement important à investir.
Les droits télé ont plombé. L'économie
aujourd'hui est en grande difficulté. Donc je pense qu'il faudrait se féliciter au contraire d'avoir un président comme ça, local en plus, puisqu'on parlait d'identité. On a un président qui a fait tout son parcours à Florange, qui est aujourd'hui président d'une société
patron,
qui fait travailler des Lorrains et des Belges et des Luxembourgeois. On devrait au contraire être fiers de l'avoir.
Très sincèrement, je vais vous dire, j'ai pensé à lui dimanche soir.
Oui.
Quand il rentre chez lui, qu'il est temps d'aller se coucher, tout ça pour ça. Enfin, il faut être fort mentalement.
C'est sûr.
Parce que.
Il faut être très fort.
Une telle ingratitude, comme vous le disiez, on peut tout comprendre, mais.
Oui. Non, il faut garder mesure, en tout cas, il faut garder raison. Et encore une fois. Réfléchissons à ce qu'on a. D'ailleurs, la vocation aujourd'hui du FCMS, au vu justement des sommes demandées pour être en Ligue 1, c'est pas forcément d'avoir une pérennité à ce niveau-là. Je pense, d'ailleurs, le club l'a montré. Ok, on ironise sur ces ascenseurs, mais malgré tout, il y a des saisons en Ligue 2 où les supporters s'éclatent.
À 22 000 moyenne.
22 000 de moyenne en Ligue 2, avec des bons matchs, avec une Ligue 2 qui aujourd'hui est de meilleur niveau, avec des clubs aujourd'hui qui sont des clubs de Ligue 1, qui font le championnat de Ligue 2. Donc, il faut dépasser aujourd'hui cette angoisse par rapport à un maintien forcé et pérenne en Ligue 1. Je trouve que de naviguer entre les deux, c'est pas une honte. Et d'être performant en Ligue 2, c'est déjà quelque chose d'intéressant.
Est-ce que si je vous dis que changer l'entraîneur ne changerait pas forcément les choses, sauf si les joueurs ont lâché le coach en ce moment ?
Oui, là, il faut être à l'intérieur pour le savoir. Voilà. C'est vrai que... C'est vrai que l'entraîneur, malheureusement, sert souvent de fusible, en fait, quand il faut changer quelque chose. Il n'y a pas 36 solutions. Et d'ailleurs,
il aurait, je pense, été
débarqué depuis longtemps. Moi, j'aime beaucoup cet entraîneur, parce que je trouve qu'il rentre bien à travers sa mentalité, son comportement, son discours.
La volonté de jouer.
Voilà, et puis un comportement, encore une fois, qui est... Il se contrôle, il est constructif. Hein, donc moi, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai qu'il faut des résultats. On est dans une compétition, et c'est vrai que quand on est responsable et qu'on n'a pas de résultats, on est remis en question.
Si on fait des matchs comme contre le Paris Saint-Germain récemment, on peut tout espérer.
Bien sûr.
C'était une belle défaite.
Oui, exactement.
Tant qu'il en existe.
Exactement. L'équipe méritait mieux ce jour-là.
Oui, je pense.
J'étais au stade. C'est vrai que si on ne se prend pas ce troisième but très bête, je pense qu'on fait au moins match nul, ce qui aurait été évidemment
les 10 dernières minutes, on les a mis en danger.
Oui. Et donc c'est prometteur, enfin je veux dire, ça laisse l'espoir en tout cas de se maintenir.
Merci pour ces quelques impressions. J'ai quelques dernières petites questions un peu à la sauvette comme ça. Le joueur avec lequel vous avez joué qui vous a le plus impressionné ? Il y en a peut-être deux ou trois, hein ?
Il y en a deux en fait, c'est Robert Pires à Metz évidemment, même s'il était un peu au début de sa carrière, mais j'ai tout de suite senti que c'était un joueur
exceptionnel. Il était frêle aussi lui, pour le coup on parlait de physique tout à l'heure.
Il a eu des difficultés.
C'était pas un monstre.
Non, il le dit d'ailleurs dans la préface, on a à peu près le même parcours parce que lui pareil, jeune, il a eu du mal à émerger paradoxalement, il a été aussi remis en question. Et puis le deuxième joueur c'est Lubomir Moravčík en fait, numéro 10 à l'AS Saint-Etienne, joueur slovaque avec qui j'ai passé 3 ans, à la fois humainement et sportivement, c'était pareil, un garçon exceptionnel avec un talent exceptionnel.
Merci. L'adversaire qui vous a le plus impressionné ? Alors, je pourrais vous en citer un, c'est un ami commun.
Oui.
Pascal Raspolini, qui a failli vous faire, vous en rigoler.
Exactement.
C'est presque à cause de lui que vous avez pas été, vous auriez pu ne pas aller en équipe
de France.
Exactement,
Pascal a failli briser ma carrière avant qu'elle ne commence, puisque j'ai le souvenir, quand j'étais à la SPTT Metz, en fait, on jouait en 3e division.
C'était un bon
club. Et
donc,
Pascal jouait à ce moment-là dans la réserve du FC Metz, puisqu'il n'était pas toujours titulaire et pris dans le groupe des pros. Et donc, on avait fait un match de championnat de 3e division entre la SPTT et le FC Metz.
Le grand SPTT.
J'étais arrière droit à ce moment-là à la SPTT et Pascal était ailier gauche. Et c'est vrai que ce jour-là, on perd, je crois, 4-0. Pascal met 3 buts et me fait un festival, en fait. Et à l'époque, le directeur sportif du FCMS était venu, justement, pour superviser, pour me voir, parce qu'il sentait, il avait entendu que j'avais un potentiel. Et c'est vrai que je me suis dit, ce jour-là, heureusement qu'il n'a pas tout remis en question en se disant, non, c'est définitivement foutu, parce que ce monsieur Vatrin m'a rappelé quelques semaines après pour me proposer, justement, de rentrer au centre de formation. Mais pour reparler de Pascal Raspolini, en effet, on en rigole aujourd'hui, mais il a failli briser ma carrière. Au tout début.
Le coach avec lequel vous vous êtes le mieux entendu, où ça roulait, il n'y avait pas...
Oh, y en a
il
deux,
pouvait
là
compter
aussi.
Sur lui, il pouvait compter sur vous.
Il y en a deux là aussi, Marcel Husson, malheureusement, qui est décédé il y a quelques semaines.
On pense à lui.
Voilà, à qui je dois beaucoup, parce que je l'ai eu au centre de formation.
C'est un personnage.
Incroyable, d'un engagement total, d'une générosité sans pareil, et puis d'une dureté aussi.
Oui.
Donc c'était ce mélange qui était détonnant et qui marchait bien à Metz.
Ouais.
Et puis Joël Muller, puisque c'est vrai que pareil, on a quand même vécu de très très belles années, on se retrouve encore régulièrement, il m'a accompagné derrière moi dans ma tentative de la présidence de la Ligue du Grand Est de foot. Donc on a des liens particuliers. Voilà, les deux, s'il faut en ressortir deux. Mais j'ai toujours eu beaucoup de respect, en fait, pour mes entraîneurs, à tel point que une des rares fois, je vais vous livrer une anecdote, une des rares fois où je me suis un peu éloigné de Carlo Molinari, en fait, c'est quand il a écarté Henri Depireux. C'était justement après Marcel Husson, en fait, en 88-89. Et pendant 6 mois, il y a eu cet entraîneur, Henri Depireux, qui n'a rien réussi. C'est vrai qu'il était très particulier. Et en fait, je sentais que le président voulait faire quelque chose. Et j'avais pris position publiquement pour Henri Depireux, parce que je suis dans cet esprit légitimiste.
Voilà. Le groupe, il faut rester soudé.
Après, avec le recul, Carlo m'a dit, écoute, et puis je l'avais senti aussi à ce moment-là, c'était le seul moment où il m'avait d'ailleurs convoqué dans son bureau en disant, Sylvain, t'arrêtes tes conneries, laisse-moi faire. Donc voilà. Ça, c'est pour dire que tous les entraîneurs que j'ai eus, en fait, je partais du principe qu'il fallait à la fois les respecter et être avec eux.
Vous étiez donc le dernier défenseur, donc vous n'avez pas marqué énormément de buts dans votre carrière, ce n'était pas votre rôle premier. Pour autant, vous en avez mis quelques-uns. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous reviennent encore en mémoire?
Alors, j'ai mis beaucoup de pénaltys. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai, je crois, 35 ou 38 dans ma carrière.
Il faut les mettre quand même.
Pour un défenseur,
c'est pas mal,
mais il y a beaucoup de pénaltys.
Ouais.
Bon, il faut les mettre. Mais par contre, dans le jeu, les deux que je ressortirais, c'était avec Metz en 96 contre Auxerre en championnat, une frappe de loin.
D'accord.
Les deux buts sont assez similaires. Et il y en a un deuxième contre l'Étoile Rouge de Belgrade en 98-99. Pareil, une frappe de loin. Mm-hmm. Voilà, s'il y a deux buts à ressortir, c'est cela. Il y en a un troisième, non ? C'est encore plus lointain, mais c'était contre Quimper en Coupe de France dans le parcours 88, où je marque pratiquement un but du milieu de terrain après un dégagement foiré du gardien.
D'accord. Alors, si vous ne l'aviez pas cité, bien cela aurait été mon anecdote. J'étais présent au match le jour où vous avez marqué contre Auxerre.
Oui.
Je vous vois encore récupérer le ballon, franchir la ligne médiane. Arrivé aux 35 mètres, et là, je vous assure, je vous vois, vous levez la tête, vous regardez, personne ne vous attaque, et vous frappez une frappe de mule qui va se loger sous la barre.
Sous la barre, oui.
Un but exceptionnel.
C'est un des deux buts, en effet, que je retiens.
Celui
contre l'Étoile Rouge était à peu près pareil. Mais en plus, je n'avais pas une frappe exceptionnelle, mais j'avais tout mis. En fait, c'est l'engagement qui montre qu'en fait, même si on n'a pas... On peut augmenter ses capacités avec de l'engagement.
C'était l'époque d'Auxerre, du grand Virou.
Virou, bien sûr.
Encore un qui a marqué son époque.
Sacré duel contre la J.O.C.R.
Ah oui. Toujours. jours.
Ouais, ouais.
Voilà, eh bien, on arrive tout doucement à la fin de notre rencontre avec Sylvain Castenjudge. Je ne peux que vous recommander son premier livre. Il y en aura peut-être un deuxième.
On va voir.
On verra bien. Derrière le masque, préfacé par Robert Pires et le général Pierre de Villiers. C'est étonnant de retrouver un général qui préface avec...
Oui, bah c'est l'ancien chef d'état-major des armées qui a démissionné quand le président Macron est arrivé aux affaires. Et je l'ai rencontré, en fait, quand j'étais au syndicat des footballeurs, parce que le général est passionné de football.
D'accord.
Et donc, on s'est rencontrés et j'avais développé un programme sur l'engagement sociétal des footballeurs et des footballeuses. Et je cherchais des personnalités qui puissent, justement, m'apporter à la fois leur caution, leur complicité et leur engagement dans ce programme. Et donc, le général a été, dès le début, en fait, complice de ce programme. Et on est amis maintenant, et c'est un personnage exceptionnel, avec une carrière militaire fabuleuse.
C'est aux éditions Parège Littérature, Sangrenin, Sylvain Castenjudge. Merci Sylvain.
Merci Jean.
Pour cette belle rencontre, c'était un honneur pour moi et un grand plaisir.
Merci beaucoup.
Bonne continuation pour la suite.
Merci, vous aussi.
Et à l'EMS.